journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, des avocats au chevet des Gilets jaunes qui seraient soumis à des traitements judiciaires non réglementaires, la feuille de route du PS pour les élections européennes et un mot-clé dans le discours du premier secrétaire Olivier Faure, Unité, la Belgique, terre d'accueil pour l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et libéré hier sous condition, une journée particulière au Venezuela, pro-Maduro et pro-Guaido dans la rue et des ONG qui dénoncent les actes répressifs des troupes spéciales. Dossier signé Olivier Poujade et Laurent Macchietti, envoyés spéciaux à Caracas. Enfin, une bulle éco signée Marie Viennot qui s'intéresse ce samedi au sort réservé aux salariés de l'usine Ford de Blanquefort. Le Premier ministre en visite hier à Bordeaux regrettait de ne pas être en mesure de dire quand les Gilets jaunes allaient cesser de battre le pavé et Édouard Philippe de condamner les violences, celles des manifestants sans jamais puiser dans les dernières statistiques fournies par le ministère de l'Intérieur. Quelques extraits, la police des polices a ouvert 116 enquêtes après usage de flashball et de grenades à désencerclement. Les cortèges d'aujourd'hui sont d'ailleurs dédiés à ces blessés qui se comptent par dizaines. Et voilà que des hommes de loi, des avocats dénoncent cette fois des dérives dans le traitement judiciaire de dossiers de gilets jaunes. Bonjour Clotilde Ravel.
Bonjour.
Clotilde, de quelles dérives s'agit-il ?
Audition sans présence d'avocat, peine trop sévère, recours trop important aux comparutions immédiates. Voici entre autres ce que dénoncent 59 avocats dans cette tribune. Alors il faut rappeler que depuis le début du mouvement, plus de 5000 personnes ont fait l'objet d'un placement en garde à vue qui ont débouché sur 800 comparutions immédiates. Or, cette procédure, rappelle les signataires, est normalement réservée aux personnes ayant des antécédents judiciaires et pour des faits graves. Nous tenons ici à rappeler que nombre de gilets jaunes n'ont jamais eu à connaître auparavant la justice pénale, indique la tribune. Tribune qui critique par ailleurs l'utilisation de la comparution immédiate pour des affaires complexes ou qui ne présentent pas la même gravité que celle habituellement retenue pour ce choix procédural. L'une des auteurs du texte, Sophia Albert Salmeron, est avocate au barreau d'Avignon. Elle dénonce la violation délibérée des droits des manifestants.
Bien sûr, c'est une violation. Déjà, lorsque il y a des interpellations et des arrestations et placements en garde à vue, à titre préventif, c'est-à-dire bien en amont, bien avant que ces manifestants pénètrent dans le lieu de la manifestation elle-même, déclarée ou non déclarée, peu importe.
Mais alors, pourquoi se retrouve-t-on face à cette situation de crise ? Sophia Albert-Salmeron a son idée sur la question.
Je pense qu'il y a un désir profond de l'exécutif de montrer qu'il se batte contre ce mouvement et que dans les statistiques, à la fin du week-end, il y ait tant d'interpellations, tant de placements en garde à vue et montrer au plus grand nombre que finalement les gilets jaunes, s'ils sont placés en garde à vue, c'est parce qu'ils ont commis des faits répréhensibles. Or, c'est pas toujours le cas.
Des procédures faites souvent dans l'urgence pour gonfler artificiellement les chiffres, alors qu'à l'inverse, se relèvent les avocats, les procédures qui concernent des violences policières présumées ne font pas l'objet de la même rapidité de traitement. Pour l'instant, aucune poursuite pénale n'a abouti concernant les violences policières.
Merci à vous, Clotilde Ravel. Soutenue par Force Ouvrière et la CGT, les assistantes maternelles sont appelées à manifester contre la réforme de l'assurance chômage. Elles se font appeler les Gilets roses. Parmi les chefs de partis politiques reçus par Emmanuel Macron, les chefs de groupe et de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, Olivier Faure à la tribune, en ce moment même, dans le 12e arrondissement de Paris, pour lancer la campagne des européennes. Bonjour, Steven Goyer.
Bonjour.
Steven, quelles orientations retenir dans ce discours ?
Alors, un discours, une fois n'est pas coutume, sur l'unité, sur la nécessaire unité de la gauche. C'est ce qu'a expliqué Olivier Faure il y a quelques minutes, pour faire face au tableau libéraux contre populistes qui se dessine pour ces élections européennes. Le risque, c'est de devenir crépusculaire. À nous de ne pas nous transformer en vieux appareils qui se divisent sur une virgule. La gauche, ça n'a jamais été l'uniformité, mais ça a toujours été l'unité. Fin de citation. Alors, comment la créer, cette unité, tant les listes à gauche pourraient être nombreuses entre le parti Génération de Benoît Hamon, les écologistes, les communistes? Eh bien, d'abord en créant une plateforme de combat commun. 10 combats bientôt menés et dévoilés pour ces européennes, résultat d'un travail de plusieurs mois avec le mouvement Place Publique. Plateforme destinée toujours à rassembler la gauche dite réformiste, entendre sans les insoumis, mais avec les écologistes qui, selon le patron du PS, ne doivent pas partir seuls dans la bataille. Olivier Faure l'a promis, en revenant aussi sur l'inventaire du quinquennat Hollande lancé lundi dernier. Nous allons changer, une phrase très applaudie dans les rangs.
Merci à vous, Steven Goyer. Escale belge de longue durée pour Laurent Gbagbo, acquitté en janvier dernier de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et libéré hier sous condition. L'ancien président ivoirien attendra en Belgique l'issue de l'examen de l'appel interjeté par le parquet. Bruxelles, Pierre Benazé.
Le porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères a formellement confirmé l'autorisation accordée à Laurent Gbagbo de venir résider sur le territoire du Royaume. On sait que des contacts diplomatiques ont eu lieu depuis le début de l'hiver entre le greffe de la Cour et le gouvernement belge. Et c'est donc expressément dans le cadre d'une demande de coopération formulée par la CPI que Laurent Gbagbo sera admis en Belgique. Ses liens familiaux avec le plat pays ont aussi pesé dans la balance puisque sa seconde épouse y réside avec l'enfant du couple. Le ministère belge des Affaires étrangères précise que Laurent Gbagbo devra se tenir à tout moment à la disposition de la CPI. C'est là une des conditions imposées hier par la Cour d'appel qui ne peut donc que se satisfaire de la proximité de la résidence future de Laurent Gbagbo s'il est convoqué pour une éventuelle audience. Une fois en Belgique, Laurent Gbagbo devra aussi se présenter au commissariat une fois par semaine et ne pourra quitter sans autorisation sa municipalité de résidence. De la même manière, il devra s'abstenir de toute déclaration publique et de tout contact avec la presse.
Moscou ne tarde pas à emboîter le pas à Washington et cesse à son tour de respecter le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, texte paraphé en 1987 qui avait mis fin à la longue crise des SS-20. Ce matin, le président russe Vladimir Poutine accuse les États-Unis d'avoir violé ce pacte et appuie la proposition de son ministre de la Défense d'entamer la mise au point de missiles supersoniques. L'ONU avait demandé sans relâche un accès humanitaire à l'enclave syrienne d'Ajin, où les derniers combattants de l'organisation État islamique affrontent les forces démocratiques syriennes, forces arabo-kurdes. Plus de 23 000 personnes ont fui cette zone de guerre. Nous sommes en ligne de Beyrouth avec vous, Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, il faut dire que les djihadistes résistent.
Oui, c'est cette poche de Rajin, hein, c'est l'une des dernières poches de résistance de l'État islamique sur les bords de l'Euphrate à la frontière avec l'Irak. Cela fait donc plusieurs mois que les FDS, cette force arabe et kurde soutenue par les Occidentaux, progressent dans la région. Des villages repris un à un et des combats qui poussent des milliers de personnes à fuir. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, se dit d'ailleurs extrêmement préoccupée par la situation humanitaire sur place, en cause notamment ces températures hivernales ces dernières semaines, avec le froid qui a tué en deux mois au moins 29 enfants. Alors, de son côté, sur le terrain, l'État islamique, qui a contrôlé jusqu'en 2015 près de la moitié du territoire syrien, est donc en passe de perdre ses derniers bastions dans le pays. Mais l'organisation est loin encore d'être vaincue. Les renseignements américains parlaient cette semaine de quelques milliers de combattants encore actifs en Syrie, mais aussi en Irak, sur la défensive. Donc, les djihadistes se limitent à une stratégie de guérilla avec des attentats ciblés. Il y a deux semaines, par exemple, c'était à Mangish, dans le nord-est du pays, qu'un kamikaze se faisait exploser près d'un restaurant. Bilan 19 morts, dont 4 Américains. Quelques jours plus tard, c'était au sud de la province de Hasake, cette fois que 5 combattants des FDS périssaient dans l'explosion d'une voiture piégée.
Merci à vous, Nicolas Feldman, en direct de Beyrouth. Le président autoproclamé du Venezuela dit le plus grand bien qu'il pense de la Chine, un allié de poids, Juan Guaido, dont les soutiens sont appelés à manifester dans quelques heures, tout comme ceux de Nicolas Maduro, de Venezuela dans la rue, pour une confrontation à distance à tout le moins inquiétante. Nos envoyés spéciaux, Olivier Poujade et Laurent Macchietti, ont recueilli les deux témoignages suivants. Tout d'abord, celui de Fabiana, au chevet du successeur d'Hugo Chavez.
Tout le peuple chaviste va se réunir, le peuple révolutionnaire, pour envoyer le message que toute la population est derrière la révolution. En dépit des tentatives de la droite nationale et internationale de vouloir nous faire disparaître, nous allons descendre dans la rue pour continuer de défendre le mouvement bolivarien avec la conviction de lutter pour notre souveraineté, notre indépendance, soutenir le président Nicolas Maduro, délivrer notre message d'amour pour la patrie, pour notre terre, et pour dire qu'aucun Vénézuélien ne veut une intervention dans notre pays.
Carla, elle, admire la prise de risque de son leader Juan Guaido.
El amor y el coraje que tiene L'amour et le courage qu'il a pour lutter et faire en sorte que ce pays se relève avec nous, peuple vénézuélien qui le soutenons. C'est réel, c'est en train d'arriver. Je te parie que très vite, avec cette lutte et l'enthousiasme de ce jeune, on va sortir de cette situation rapidement. J'ai deux fils à l'étranger. Ils vont revenir. Ça fait déjà un an que je ne les vois plus. Ils sont partis pour fuir cette crise et pouvoir m'aider. On en a tant besoin. Je dois prendre des médicaments et ils peuvent m'en envoyer.
Olivier Pouget, vous vous êtes donc tourné vers celles et ceux qui veillent au respect des droits fondamentaux.
L'une des périodes répressives les plus graves de ces dernières années, d'après Gonzalo Rignom, l'un des responsables de l'ONG Foro Pénal, qui détecte les violations des droits de l'homme et les placements en détention à la suite des manifestations. Depuis 2014, 13 915 emprisonnements, 943 ces 10 derniers jours, depuis l'autoproclamation de Juan Guaido. Des forces de sécurité nerveuses qui tentent d'agir à l'abri des regards, nous dit Gonzalo Rignom.
La répression commence après les manifestations. Généralement, ça se passe de nuit. Ce sont les forces spéciales qui s'en chargent, avec la police et la garde nationale bolivarienne. Le gouvernement veut neutraliser particulièrement les quartiers pauvres, ce qui démontre que ce gouvernement a perdu assez clairement le soutien populaire, qui par le passé pourtant était son porte-drapeau.
Le socle électoral d'Hugo Chavez et de Nicolas Maduro, les quartiers défavorisés se joignent désormais à une contestation dont le gouvernement a toujours dit qu'elle était l'œuvre des classes riches sous l'impulsion des États-Unis. C'est la grande nouveauté de ce mouvement que certains qualifient déjà de printemps vénézuélien.
Dossier signé Olivier Poujade et Laurent Macchietti à Caracas.
La bulle économique. Marie Viennot.
Pourquoi Ford préfère-t-il licencier 850 salariés de son usine de Blanquefort plutôt que d'accepter la reprise par un industriel flamand ? Élément de réponse. Bonjour Marie.
Alors tous ceux qui sont au fond de la salle, ils se rapprochent du camion Sono.
Nous sommes en juin 2010. Philippe Poutou, au micro, n'a pas encore été candidat à la présidentielle. Représentant syndical CGT, il anime une opération usine morte à Blanquefort. Les salariés du site ne sont pas alors employés par Ford, mais par First Aquitaine. Et ce qu'ils demandent, c'est justement le retour de Ford. Un an auparavant, le constructeur américain a cédé l'usine à un conglomérat allemand, mais déjà la reprise ne fonctionne pas. Les investissements promis pour produire des pièces d'éoliennes n'ont jamais été faits et Ford est appelé à la rescousse pour reprendre l'usine dont il pensait pouvoir se débarrasser. Chat échaudé craint l'eau froide, ainsi peut-on d'abord expliquer les réticences de Ford à céder de nouveau l'usine de Blanquefort. Dans ce dossier, cependant, on ne peut faire que des suppositions. Le contrat de cession d'un actif industriel est un contrat privé et on ne sait pas précisément ce que le groupe flamand Punch a demandé à Ford pour reprendre l'usine de Blanquefort. Ce qui est sûr, c'est que cette cession ne rapportera pas d'argent à Ford, mais qu'elle lui en coûtera. Céder serait même plus coûteux que licencier les 850 salariés de l'usine, estime Bercy, qui suit le dossier de près. Première raison possible, donc, le coût de l'opération. Deuxième raison, Ford serait obligé de garder un pied en Aquitaine. Pour assurer la transition, le constructeur américain devrait continuer à acheter des boîtiers automatiques made in Blanquefort jusqu'en 2021, alors que son désir est de rapatrier la production aux États-Unis. Le marché européen est de moins en moins rentable, se justifie la firme de Détroit pour ne plus produire en France. Quant au projet de reprise, il n'est selon elle pas viable, Punch n'ayant présenté aucune lettre de commande ferme. Bercy reconnaît que Punch doit donner des signes tangibles qu'il y a des clients intéressés par les boîtes de vitesse qui sortiront de l'usine de Blanquefort. Mais il ne peut pas obliger Ford à vendre à un repreneur. Quand ils ont voté la loi Florange en 2014, les socialistes avaient prévu cette obligation, mais le Conseil constitutionnel a retoqué cette disposition qui portait atteinte aux droits de propriété et à la liberté d'entreprendre. Chercher un repreneur, c'est obligatoire. Trouver, non. Lui vendre, encore moins. Que peut faire l'État pour contraindre Ford ? Pas grand-chose, reconnaissait déjà en mars Jean-Pierre Floris, le délégué aux restructurations d'entreprises, lors d'une audition au Parlement sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle.
Nos moyens de pression sur Ford sont assez limités. sauf à les emmerder, excusez-moi, sur d'éventuels PSE, reconversion sociale, etc.
Retoquer le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford, c'est justement ce qu'a fait l'administration française cette semaine, ce qui donne un peu de temps aux repreneurs pour trouver des clients. Mais que se passera-t-il si Ford cède et que finalement la reprise ne marche pas ? Ford craint de ne jamais pouvoir quitter Blanquefort pour de bon. Rien dans la loi ne l'oblige à revenir, mais deux jurisprudences ont ouvert une brèche. L'entreprise qui cède n'est pas dégagée de ses responsabilités vis-à-vis des salariés et elle peut avoir à payer les indemnités de licenciement en cas de faillite du repreneur. Voilà pourquoi l'État français envisage dorénavant de nationaliser temporairement l'usine de Blanquefort pour ensuite la céder lui-même à Punch. La proposition est sur la table, mais le doute juridique plane malgré tout. Plane aussi l'idée que Ford refuse le projet du repreneur pour ne pas financer une usine qui, à terme, lui ferait concurrence. La réalité rejoint la fiction que décrivait le film « En guerre » de Stéphane Brisé. Mais l'épilogue de Ford, heureusement, n'est pas encore écrit.
Quelques mots de la météo pour refermer ce journal. Le Cantal, la Haute-Savoie, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire et la Savoie sont placés en vigilance orange en raison d'abondantes chutes de neige, sinon temps agité et pluvieux. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia, la technique, Anthony Thomasson.